EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Ça va bien aujourd'hui?
Oui, bonjour.
Bonjour Doris. Ça va bien? Et vraiment aujourd'hui, c'est la chaise. Enfin, oui, cette semaine, ça a été la chaise musicale. Je te cherche là.
Je suis là aujourd'hui.
Et on a une semaine. On a fait preuve d'hospitalité autour de cette table. Et aujourd'hui, nous sommes avec toi, Doris. Doris Campion, c'est la première fois que tu viens nous voir. Et on est très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi. Alors Doris, rapidement pour peut-être te présenter, tu es l'épouse de Chris Campion.
Oui.
Et Chris Campion, vous avez une œuvre dans le sud de la France avec Jésus, tout est possible, ou t'étais possible avec Jésus. Ben ça veut dire la même chose. et en fait, c'est ça. On est contente aujourd'hui d'être avec toi, Yentel. Yentel, vous vous connaissez toutes les deux, et elle était avec nous juste avant. Oui, juste avant, on a passé un bon moment aussi ensemble. Donc toi, on parle toute cette semaine. On a parlé au niveau de l'encouragement. On a eu Brunella. Brunella, je t'encourage vraiment à suivre le moment qu'on a pu passer. Brunella, qui a une belle famille et une famille qui est différente parce qu'elle a deux enfants qui ont des besoins spéciaux et avec des lourdes pathologies. Comme elle nous a expliqué, c'est des enfants qui ont absolument besoin d'eux. Donc elle a deux enfants, ses deux grands-enfants, Louane et Joshua. Et puis un peu plus tard, ils ont eu Raphaël. Donc en fait, Brunella nous a raconté un petit peu son quotidien et puis les défis par lesquels elle est passée. Et on a vu une femme rayonnante.
Ah, résiliente.
Inspirante. Ouais, voilà. Et en tout cas, ça nous encourage à relativiser premièrement, et puis aussi à se dire, ma famille peut-être ne ressemble pas à celle du voisin, de ma sœur, etc. Il peut y avoir des enfants avec des besoins spéciaux, mais il peut y avoir aussi d'autres choses, d'autres défis, et se dire, Dieu a un plan à travers tout ça. Et Brunella est devenue, avec son mari, ils sont devenus thérapeutes et spécialisés dans le domaine des familles avec des enfants à besoins spéciaux et aussi pour les aidants, apporter un soutien. Et là, ils ont commencé une mission particulièrement dédiée aux églises pour équiper les églises à accueillir ces familles et puis donner des outils, parce que quelquefois, on peut se sentir vraiment dépourvu en fait et démuni. Et il y a une place, comme Brunella disait, il y a une place pour tous les membres et pour tous les organes, y compris les plus faibles. Et c'est important qu'on puisse se le rappeler, mais surtout qu'on trouve des solutions concrète. Donc maintenant, grâce à leur mission, en tant qu'église, on va pouvoir être équipés. Et avec Yentel, on a pu parler aussi des mauvais départs dans la vie, parce que quelquefois, ça part pas comme on aurait voulu. Oui. Et ça peut nous limiter toute une vie de se dire, mince, moi c'est mal parti, tant pis, c'est fichu. Et on a vu avec l'histoire de Yentel comment les choses après se sont inversées et comment aujourd'hui cette femme épanouie en Christ. Et on continue dans notre lancée avec ton histoire, Doris, parce qu'aujourd'hui tu as deux enfants et tu as eu un parcours, je dirais, atypique de grossesse naturelle. T'es passée par différentes choses. T'es passée par des FIV. Et donc, tu as eu ta première fille, comme ça, ta fille qui a 9 ans aujourd'hui, par in vitro, c'est ça. Et puis, tu vas nous raconter comment ça s'est passé pour ton fils, ton petit Moïse de 4 ans. Comment Dieu t'a parlé et comment Dieu t'a conduit. Et encore une fois, ce qui est beau dans ton histoire et dans toutes les histoires qu'on a entendues durant cette semaine, c'est que il n'y a pas une seule façon dans la manière dont Dieu veut faire, et Dieu fait toutes belles choses, mais à sa façon. Et quelquefois, on a envie que ce soit de cette façon-là, et on a envie de dire à Dieu, comme Stéphanie aime bien le faire.
Mes scénarios sont
c'est ça.
Enfin, je trouve que j'ai des meilleurs scénarios que ceux de Dieu, mais je fais des blagues. Il y a toujours les meilleurs. mais des fois, c'est pas facile à comprendre la façon dont il s'y prend.
Ouais, c'est sûr. Mais quelquefois, c'est même pas une histoire de comprendre, c'est une histoire plus d'accepter puis de lui faire confiance. C'est de dire, je ne comprends pas tout, mais je vais te faire confiance. Exact. Et avant qu'on puisse aller directement dans ton histoire, juste un petit point, Stéphanie, quand on parle de FIV in vitro, de quoi on parle exactement?
Ah ben, il y a plusieurs façons. En fait, FIV, c'est fécondation in vitro. Mais en fait, on parle de PMA, procréation médicale assistée. Donc, il y a plusieurs paliers de procréation médicale assistée. C'est pas toujours in vitro.
C'est ça.
On pourra en parler, mais ça peut être juste de l'insémination.
Mais il faudra qu'on fasse un podcast sur ça.
Oui, parce qu'il y a des limites dans tout ça. Au niveau éthique, jusqu'où je me rends, jusqu'où je suis prête à aller. Mais effectivement, c'est aussi un bon outil que pour aider les femmes à réaliser, les familles à réaliser.
Au niveau de la FIV, c'est quoi?
C'est la fécondation in vitro. C'est-à-dire qu'il y a eu la fécondation, c'est fait in vitro, veut dire dans le verre. Donc probablement, disons les mots, le sperme de son mari, l'ovule de notre invité, fécondé dans un pétri, dans un plat de verre, qui a été inséminé à l'intérieur de l'utérus.
Voilà.
Donc, de façon, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça. Donc, voilà. Mais il y a toutes sortes de variantes de ça. Donc.
Et est-ce que toi, après, vous êtes mariée, tout ça, et au bout de combien de temps tu t'es dit, on n'arrive pas à avoir d'enfant?
En fait, mon mari est rentré à l'hôpital, il a fait une pancréatite aiguë.
Ah, ok.
Et là, on est resté un an à l'hôpital.
Un an,
Pour la pancréatite?
Oui.
Ah, ouais.
Et le seul médicament, la solution, c'était juste pas manger, pas boire.
Okay.
Il a été nourri
Par sonde.
Par sonde, et c'était très compliqué. Il a perdu 45 kilos. Et donc, c'était la première année où je me suis mariée, en fait. Je me suis mariée.
En train, première année de mariage.
Un mois après, pancréatite. On a resté un an à l'hôpital.
C'est fou quand même, Anna.
Donc, après, à la sortie de l'hôpital, il est sorti à 45 kilos. Je devais m'occuper de lui. Il y avait beaucoup de séquelles, quoi. Il y a eu une très grosse opération, une déviation de l'estomac. Très compliqué. Et donc, par la suite, on a attendu qu'il se rétablisse, tout ça. Ouais. Et une année, ça faisait à peu près 3 ans. Donc, l'année qui a précédé sa maladie, on a décidé de fonder un foyer. Et c'est là que j'ai vu que j'avais des problèmes.
C'est toi qui avais des problèmes d'infertilité?
Moi et lui.
Toi et lui aussi. Suite à sa maladie,
Suite à sa maladie,
Un traitement qui...
Moi et lui, j'avais des problèmes, lui aussi. Donc, j'ai commencé à aller voir des médecins. Et puis, on m'a dit que j'avais des problèmes. Donc, je me suis fait aider et on a fait une insémination artificielle.
Est-ce que pour toi, c'était un parcours qui était... pas facile, mais dans le sens, c'était c'est le parcours. C'était à accepter, faire ce choix-là.
En tant que chrétienne, c'était vraiment difficile. Je me posais des questions. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on te sert. Mon mari t'a appelé à servir le Seigneur. On l'a servi de tout notre cœur. Et puis, je dis encore, ça y est, allez, encore une autre épreuve, parce qu'on sort de l'hôpital. Et là, encore, on veut des enfants. C'est encore compliqué. Et moi, j'avais pas envie parce que c'est très lourd, c'est vite trop.
On pourra en parler, mais pour une femme, tu sais, ça a l'air simple comme ça.
Voilà, le mot est très simple.
Pour avoir la stimulation.
Ça a pris combien de temps pour que vous arriviez à cette idée de faire une...
Une année, parce que c'est long, toutes ces démarches, les examens, etc. Et après, le médecin m'avait proposé une opération où on fait la vitro tout de suite. Et j'ai dit, non, moi, je ne passe pas d'opération. J'ai dit, je fais la vitro tout de suite. Et pour ma fille, ça a marché du premier coup.
Ah oui, ça, c'est déjà un miracle en soi, parce que les statistiques sont faibles.
J'avais eu une parole de Dieu aussi. Parce que c'était... Pour moi, je n'acceptais pas de faire la vitro, en fait. Je n'acceptais pas, parce que moi, je voulais avoir des enfants naturellement. Et puis, je l'ai fait parce que j'étais obligée. Mais j'avais eu une parole. J'avais eu beaucoup de prophéties où le Seigneur me disait, tu auras cet enfant.
Et du coup, tu étais en paix.
Peu importe la vitro ou naturellement. Mais j'ai fait la vitro, je l'ai eu du premier coup, c'était ma fille.
C'est un beau témoignage parce que tu sais, quand on parle d'infertilité, il y a beaucoup de préjugés sur aller en PMA ou en fécondation in vitro. Est-ce que tu joues à Dieu? Est-ce que Dieu est dans... Pourtant, dans d'autres domaines de santé, on fait appel au médecin, on ne se pose pas la question. Donc, c'est un problème de santé aussi, tu sais, que Dieu peut guérir miraculeusement ou utiliser une technique de cette façon-là.
Oui, parce que finalement, Dieu est intervenu aussi.
C'est presque assez miraculeux la première fois, vraiment.
Donc, la première fois...
Parce que je devais subir une intervention, en fait, et j'ai dit non, moi. Je fais la vitro et ça marchera.
Ok.
Ça a marché.
Et t'as une belle grossesse avec ta fille?
Oui, ça va. Ça va.
Ouais. Et t'étais contente? Est-ce que t'avais la joie d'être enceinte après?
Bien sûr.
Si t'avais été un peu déçue par le processus?
Mais j'ai tellement été réjouie quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai oublié le...
tout ce qu'il fallait passer choses, à travers voilà. toutes les injections d'hormones voilà, et les prises de médicaments.
C'est horrible. Ouais. Non, c'est beaucoup. Mais c'est très fatigant, c'est vraiment éprouvant pour une femme. Mais j'ai eu beaucoup de joie.
Et donc, tu as eu ta petite fille qui a 9 ans, qui s'appelle Lily Rose, voilà. très beau prénom, qui est en bonne santé, qui va bien. Et donc, quelques temps plus tard, vous décidez de...
Donc, 5 ans après.
D'agrandir la famille.
5 ans après, 3 ans après, okay. en fait, elle avait 3 ans, ma fille.
Et j'ai est-ce que le 3 ans, c'était vraiment la période que vous vouliez ou parce que vous étiez, t'avais peut-être un peu d'appréhension par rapport à une nouvelle grossesse?
Non, oui, j'avais l'appréhension parce que je savais pas, comme j'avais eu une vitro, j'ai dit, encore recommencer tout ça, c'était éprouvant, quoi. J'avais pas envie. Mais bon, je voulais un deuxième enfant.
Ok.
Et je voulais un garçon.
D'accord. Ah ouais, tu sais ce que tu veux, quand même.
Je voulais un garçon. Je voulais une fille en premier, un garçon.
Ah ouais. Ah bah,
comme
t'as
tout eu. C'est exactement comme moi. C'est ce que j'ai eu. Ouais, merci Seigneur.
Ouais. Ah, tu voulais une fille d'abord?
Ouais. Ah ouais, ça c'était mon rêve.
C'était mon rêve aussi.
Ah, moi aussi. Ouais.
Ah, ok.
Moi, j'ai eu deux garçons.
C'était ton rêve aussi. Ils écoutent l'émission. Et donc, là, vous vous dites, qu'est-ce que vous vous dites, en fait? On va repasser par tout le parcours ou est-ce qu'on essaye de façon naturelle?
Vous aviez fécondé seulement un ovule?
Comment?
Vous aviez fécondé seulement un ovule? Il fallait que tu repasses par le processus de stimulation.
Oui, oui, oui.
Et est-ce que vous étiez en mode ouais, on repasse, on refait tout, ou alors est-ce qu'on essaye de façon naturelle?
Non, on a essayé de façon naturelle. Mm-hmm. Et puis on a vu pendant au moins 2 ans.
Ok, d'accord.
Donc après, je voulais pas passer, j'ai laissé vraiment faire le Seigneur. Et après, j'ai retourné chez le même médecin. Mm-hmm. Puis j'ai recommencé donc les vitraux pendant une bonne année.
Mm-hmm. Ok.
Et ça marchait pas, échec.
Ah ouais. Et puis toi, moralement, comment t'es à ce moment-là?
J'étais fatiguée. En fait, cette année-là, l'ennemi ça en a servi en fait contre moi. Mm-hmm. Et là, il a commencé à semer.
Ah
à
ok.
À semer dans mon cœur.
Des doutes.
Les doutes, c'est sont arrivés avec des vérités. Et il a commencé à me dire. T'auras jamais d'autres enfants, t'en auras qu'une, c'est dommage pour toi. Okay. Et puis regarde, tu vois, ça marche pas. Puis en plus, ça marchait pas. Mais vraiment, on était vraiment découragé. Même le médecin, il savait pas trop quoi me dire. Mm-hmm. Il y a eu un stade où c'était un peu. Et puis.
Est-ce que dans cette période-là, avec le doute qui était semé, est-ce qu'à un moment donné, t'as baissé les bras?
Ah oui.
Ouais.
Oui, bon, j'ai continué parce que je suis une fille qui a beaucoup de caractère. Et j'ai dit, voilà, je le fais. Même que c'est éprouvant, je le fais jusqu'à.
Et avec les hormones, t'avais une genre de déprime aussi, un peu de dépressé.
Ouais, ouais.
C'est dur pour le moral. Hein,
on avait les hormones un peu.
Ouais.
Okay. Ouais. Et ton mari, il était dans quel état d'esprit, lui?
Lui, il est toujours positif. Ouais, c'est les hommes. Hein. Il est toujours positif, ça va aller, t'inquiète pas.
Mais il était aussi dans un statut de foi comme toi, comme il savait que ça allait aussi arriver.
Ouais, ouais. Ouais.
Mais là, pour le deuxième, t'étais moins dans cette attitude de foi, en fait. C'était un peu plus
difficile.
Oui,
cette année, donc l'année où vraiment ça venait pas.
Ouais.
Donc, c'était éprouvant. Donc oui, j'ai ma foi qui a baissé, quoi. Mm-hmm. J'étais découragée. Après, j'ai arrêté. J'ai recommencé les vitraux, j'ai arrêté. Enfin, c'était. J'étais pas très bien.
Ok. Et est-ce qu'il y a un moment, il y a eu comme un moment clé où ça a basculé, où ça a changé?
Oui. Et oui. Ben là, en fait, on était à la foire du trône, en fait, parce qu'on fait les fêtes foraines sur Paris. Et c'était la fête de la foire du trône. Et on était installés là-bas. Et là, j'allais commencer le traitement de la vitraux. Et en fait, on a 15 jours de piqûres d'hormones injectées dans le ventre. Et après, il y a la ponction. Et donc, j'allais commencer ce jour-là. J'attendais l'infirmier. Et là, j'ai une de mes cousines qui est chrétienne, qui habite dans le sud. Et elle m'appelle, me dit « Alors, ça va, ma cousine? Ça va? Comment que tu vas ?» Parce qu'elle savait par quoi je passais. Et elle, c'était une fille qui ne pouvait pas avoir d'enfant du tout. Son mari était stérile, déclaré stérile carrément. Et ils ont eu 3 enfants.
Wow.
Donc, c'était un bon témoignage pour moi. Un bon témoignage. Et elle m'appelle et elle me dit « Alors, ça va ?» Ben, je dis « Oui, ben, écoute, aujourd'hui, voilà, je commence mon traitement, etc. » Et elle me dit « Doris... » Elle commence à m'exhorter. Elle me dit « Doris, je ne comprends pas ce que tu fais. » Elle dit « Tu ne laisses pas faire le Seigneur dans ta vie. » Elle dit « Regarde, elle dit « Moi, je ne pouvais pas en avoir du tout. » C'était n'était même pas comme toi. Et elle dit, j'en ai trois aujourd'hui. Elle dit, tu devrais laisser faire le Seigneur et tout ça. Et elle me touche. Elle me touche profondément et elle me touche dans ma foi. Mmh. Et je dis, bah, c'est vrai, Seigneur. Et puis je parle avec elle et là, elle me dit, tu veux qu'on prie? Et je dis oui. Mmh. Et on commence à prier. Et j'avais l'haut-parleur. Et elle prie et elle donne une prophétie. Mmh. Et au même moment où elle donne la prophétie, mon mari rentre dans la caravane. Mmh. Et là, elle dit, le Seigneur dit, c'est pas les médecins qui te donneront ton enfant, mais c'est moi.
Mmh. Amen.
Alors là, je dis quand même, Seigneur, c'est fort. Mmh. C'est vraiment fort. Et on finit de prier, tout ça, on raccroche. Et donc, on discute avec mon mari, Chris était là. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, c'est à toi de prendre la décision. Mmh. Parce que là, j'attendais l'infirmier qui arrivait chez moi. Et bien, je dis, écoute, j'arrête tout. Je dis, voilà, j'arrête tout. J'ai dit, le Seigneur a parlé, le Seigneur le fera. Donc, j'ai dit, on arrête tout. Donc, l'infirmier tape au même moment que je dis ça à la porte. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça faisait honte. Et bref, mon mari lui dit, écoutez, voilà, excusez-nous. On décide de plus faire de vitraux. Enfin bref, il renvoie le monsieur. Et là, on prie. Et je dis une prière précise à Dieu. Et je dis, Seigneur, voilà, je pars pour l'été à Perpignan, comme on est entre Paris et Perpignan. J'ai dit, je te donne 4 mois. J'ai dit, première semaine de septembre, je rentre à Paris. J'ai dit, je veux être enceinte.
Ouais, c'est le film.
Ah
moi, j'ai pas envie d'arrêter avec ça avec Dieu. Mais il y en a qui demandent carrément. Ouais, j'apprends.
Non, mais c'était comme ça, franchement, en vérité. J'ai dit, Seigneur, je te donne 4 mois. J'ai dit, au mois de septembre, je rentre à Paris, je suis enceinte. Et je laisse l'été passer. Et au milieu de... Il se passe 2 mois. Donc, je vais à l'église. Et la même fille qui m'avait appelée, donc cette cousine, elle prophétise dans l'église. Mm-hmm. Et là, j'étais découragée quand même. C'était passé 2 mois, il me restait encore 2 mois. C'était compliqué et j'étais pas bien. Voilà, je voyais les femmes qui étaient enceintes, j'étais limite jalouse. Mm-hmm. Je voyais, j'avais des choses que, voilà, c'était pas... Et là, donc, il y a une prophétie qui se lève. J'étais attristée, je suis arrivée dans cette réunion attristée, franchement. Le Seigneur me dit, tu as de l'incrédulité dans ton cœur. Je ne peux pas t'accorder la bénédiction parce que tu as de l'incrédulité dans ton cœur. Donc la réunion se... Lève-toi. Il dit, lève-toi et je te bénirai. Et moi, je ne me lève pas. Je ne me lève pas parce que je suis en colère, parce que je n'ai pas envie, parce que je n'y crois pas, parce que je dis encore, je vais me lever, je vais encore faire prier pour moi. Et j'ai dit, ça ne va pas marcher. Et puis, ça fait 2 ans que je...
C'était peut-être un peu d'incrédulité.
Ouais, c'était beaucoup d'incrédulité, ouais. Et donc, je ne me lave pas. Mm-hmm. Je ne me lave pas. Et je rentre chez moi. Donc, c'était le vendredi que j'ai eu cette prophétie. Voilà. Et tout le samedi, là, j'étais. Saint-Esprit me parlait. Il me disait, tu t'imagines que je veux te exaucer ta prière parce que ce que tu désires, c'est d'enfanter normalement. Et toi, tu ne veux pas. Et ça parlait comme ça dans moi. Je sais pas possible. J'étais comme ça. Hein. Et puis, je faisais dormir ma fille. Et Chris était dans le salon en train de jouer du piano et chanter. Et je dis, je me lève. Mais mon mari n'est pas au courant de rien, je ne dis rien. C'est vraiment une expérience personnelle entre moi et Dieu. Je ne dis rien du tout. J'étais fermée. Et je dis, Chris, faut que tu pries pour moi. Je dis, parce que j'ai de l'incrédulité dans mon cœur.
C'est une belle preuve d'humilité, quand même.
Il faut que tu pries pour moi. Voilà, j'ai dit. Et donc, il dit, pas de problème, ok. Il prie pour moi.
Au moins, il t'a pas dit, je sais.
C'est mieux. Et il prie pour moi. Et donc, il était avec Alonso, d'ailleurs, le mari de Gentle. Il dit, tu vois, là, il dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a demandé, mais il dit, à mon avis, ça va le faire.
Effectivement, il est positif.
Ça va le faire. Je viens me coucher. Et donc, le dimanche matin, le culte. Je me lève et je rentre dans cette réunion et j'écoute la parole de Dieu. Et à la fin de la parole de Dieu, je me mets à prier, mais je suis la première à prier. Je suis la première, l'église pleine. Et là, je prie à haute voix, je commence à prier, à répandre mon cœur. Et je sens un sentiment d'humiliation, comment on dit, excusez-moi, d'humiliation.
D'humilité.
Vulnérabilité.
D'humilité.
Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai ce sentiment-là qui vient, cette voix, cette parole qui me résonne. Et quand je finis de prier, la prophétie se lève par la même personne encore. Et là, il dit, le Seigneur, parce que tu t'es humilié ce matin. Alors maintenant, je t'accorde la bénédiction. Et quand il dit maintenant, je sens une contraction dans mon ventre.
Oh.
Mais une vraie contraction. Je me tiens comme ça, je dis, Seigneur. Et là, je sens vraiment la guérison. J'ai senti une contraction. Et j'ai dit, bah, Seigneur, ça y est, c'est là.
Mais tu étais enceinte ou pas?
Non,
non, tu étais pas enceinte.
Non,
quelques étapes qui ont suivi ça.
Merci. Il faut vraiment qu'on fasse les épisodes oui. complets. Hein, parce que... Il manque... Je t'ai dit, un biologiste, ma maman. Donc, excuse.
Non, j'étais convaincue. Non, j'étais convaincue que j'allais avoir mon fils.
Ouais.
Okay. J'étais convaincue. Et finalement,
elle a sauté quelques étapes.
Oui, le mois d'après, donc je suis repartie à Paris, première semaine de septembre.
C'était t'étais dans ton délai,
ce que tu avais dit.
Ouais, ouais. Non, ce que j'ai demandé, première semaine de septembre, et j'ai fait mon test et j'étais enceinte.
Oh t'étais enceinte, t'étais très jolie d'ailleurs. Et après, t'as accouché quand?
J'ai accouché en avril.
Le 24 avril du petit Moïse. Voilà. Et on peut...
Voilà,
la famille au complet. Enfin, au complet sans toi. Oh, vous êtes trop
beaux. Oh, ils sont
beaux.
Magnifiques.
Ouais, et à 4 enfants. Kilos, 3 d'ailleurs.
Quand ah même. Oui, un beau bébé. Un beau bébé.
Kilos,
il
wow.
est trop mignon.
Ouais.
Tu nous avais envoyé des photos. Et, je regardais les photos pour en choisir, mais il était tellement bien. Les photos étaient. En fait, merci d'avoir partagé, ton histoire. Et comme on le disait, chaque histoire est vraiment différente et Dieu prend le temps de parler. Et tu vois, toi, il a pointé dans ton cœur l'incrédulité. Et pour d'autres femmes, ce serait pas du tout une question d'incrédulité par rapport à un problème de stérilité. Ça peut être autre chose, mais je crois que la clé à retenir, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? Comment est-ce que moi je dois te faire confiance? Est-ce que je dois te faire confiance à travers quelquefois une intervention médicale? Est-ce que je dois te faire confiance en renonçant à l'intervention médicale? C'est de savoir mais où, qu'est-ce que tu veux? Et une fois qu'on sait ce que Dieu veut, en fait on marche avec cette conviction, tu es avec moi, et puis je crois que tu vas le faire. Et tu vois, dans ta première grossesse, malgré tes déceptions, malgré tout ça, Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné une parole sur laquelle tu t'es tenue. Et puis, comme disait Stéphanie, c'était un miracle, finalement, dans tout ça.
Parce
que dès la première...
Ouais, c'est 70% à peine.
Ouais, voilà, c'est hyper rare d'entendre première fois. Et quelquefois, on veut vraiment... on s'attend à un miracle à notre façon. Et c'est ça, je pense, où on peut limiter Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut aussi amener aucune condamnation, dans le sens où chaque histoire est vraiment différente. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau que Dieu t'a fait. De répondre dans les temps. Non, mais de pouvoir te faire la grâce d'une grossesse naturelle. Et c'est vrai, il y a d'autres façons de pouvoir y accéder. Mais je crois que c'est dans le cœur de toutes les femmes qui veulent avoir des enfants, c'est de pouvoir avoir une grossesse naturelle. Et c'est encourageant de savoir que tu vois, t'as eu deux histoires, en fait, de grossesse, avec deux enfants super et de belles grossesses et tout ça, mais qui ont été différentes, mais dans lesquelles les deux dieux étaient autant là dans l'une que dans l'autre. Et
beau,
ça, je trouve ça vraiment
moi aussi, je trouve ça beau. Et est-ce que tu voudrais un troisième enfant?
Je vais faire 39 ans cette année.
Je dis rien, monsieur.
Moi, j'en dis moi.
Non, c'est pas pour moi. Vous tournez contre moi. Et écoute, je pense que ce serait bien qu'on puisse prendre un temps pour prier. Comme Dieu a répondu au désir de ton cœur, de façon spécifique.
Oui, au teint spécifique.
Ah ouais. je pense qu'il veut répondre aussi à d'autres personnes. Donc, je peux vous laisser prier. Je peux vous parler.
Tu veux prier là?
Bon, on peut tous prier.
Merci.
Seigneur, merci pour ce témoignage qu'on vient d'entendre, Seigneur. Merci pour Doris qui nous a apporté, Seigneur, ce beau témoignage tellement encourageant, tellement inspirant, Seigneur, qui montre encore une fois de plus combien tu es fidèle, combien tu es grand, combien rien ne t'est impossible, Seigneur, et que on peut se confier en toi, on peut te faire confiance parce que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu interviens, Seigneur. Tu interviens dans les situations. Et Seigneur, aujourd'hui, il y a peut-être des femmes qui regardent et qui sont aussi en attente, Seigneur, en attente de ce miracle,
miracle qu'elles attendent depuis peut-être longtemps. Mmh. Et merci Seigneur parce que tu ne les oublies pas, Seigneur. Alléluia. Et qu'aujourd'hui ça puisse être vraiment une conviction sur leur cœur, Seigneur, que tu ne les oublies pas. Et qu'elles puissent vraiment regarder à toi, pas regarder à ce qui se passe à droite, à gauche ou à la façon, Seigneur, que tu vas opérer, mais juste te faire confiance que tu vas intervenir dans leur situation, Seigneur. Merci parce que tu les vois, Seigneur. Merci parce que tu viens les rencontrer maintenant dans leur attente, Seigneur, et vraiment toucher leur cœur de la façon dont elles en ont besoin, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, qu'elles puissent mettre toute leur foi en action en regardant à toi, Seigneur, et vraiment te faire confiance que tu vas agir et que tu vas leur donner cet enfant qu'elles attendent de tant, Seigneur.
Amen, Seigneur. Ouais. Seigneur, nous voulons appeler la vie dans les corps. Amen. Nous appelons la vie dans le corps de cette femme qui prie depuis plusieurs années pour un enfant. Tu es celui qui amène la vie de façon surnaturelle. Oui. Tu es le Dieu des miracles. Yes. Et nous croyons, Seigneur, en toi. Nous croyons dans ta bonté, nous croyons dans ta fidélité. Nous croyons que tu es celui qui donne des enfants à une femme qui a été déclarée stérile. Parce que c'est ce que tu fais. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu l'as déjà fait à maintes reprises. Alors nous nous accordons avec cette femme pour ce miracle. Oui. Nous accordons aussi pour que tu lui donnes les directives particulières à sa situation. Les directives qui vont la conduire à voir ce miracle. Seigneur, tu es bon. Tu n'en as oublié aucune. Tu n'as oublié aucune de tes filles. Aucune de tes filles qui a crié à toi pour cet enfant. Seigneur, on te remercie parce que, oui, tu es le Dieu de la vie et tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui envoie la vie. Merci pour ces enfants. Merci pour ces bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles de grossesse. Allez. Là où on avait dit que c'était impossible. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui vient défier les diagnostics. Nous croyons que tu es ce Dieu, oui, ce Dieu du miracle.
Oui, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui guérit les corps comme tu l'as fait pour Doris, Seigneur. Je te prie pour les couples infertiles, pour la guérison dans le corps, Seigneur. Tu connais chaque cellule, chaque besoin, Seigneur, chaque maladie, tu es capable de guérir. Mais je te prie aussi pour l'âme. Je te prie pour peut-être une femme qui écoute cette émission en ce moment et elle lutte avec la déception. Que mois après mois, c'est déception. Et la déception, c'est le voleur d'espoir, Seigneur. Alors, je te prie en ce moment, autant que tu peux guérir le corps, tu guéris le cœur et l'âme. Tu redonnes espoir, Seigneur. Tu redonnes la foi. Peut-être des couples qui ont baissé les bras, abandonné. Ah, oui. Tu leur dis, ce n'est pas terminé. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, tu redonnes cette foi, Seigneur. Et Seigneur, nous appelons à l'avance, comme Annabelle l'a dit, comme Laure l'a prié aussi, des beaux enfants que tu as préparés, Seigneur. Des enfants, Seigneur, qui vont naître, comme on a vu cette année, alors que je priais pour quelques femmes où j'ai vu vraiment le miraculeux. Amen. Je fais appel à toi encore parce que je sais que tu es fidèle. Ouais. Et tu entends nos prières, amen, Seigneur. Amen. Nous te remercions à l'avance, Seigneur.
Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Moi aussi, Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour toutes les femmes, Seigneur, qui nous regardent peut-être, Jésus. Seigneur, pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont de l'incrédulité dans leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi un jour, Seigneur, fais-le pour eux, Seigneur. Mm-hmm. Accorde-leur leur miracle, Seigneur. Parce que tu es capable de le faire comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Qu'ils soient à l'écoute de ton esprit, Seigneur, pour être dirigés, Seigneur, jusqu'à ce cadeau, Seigneur. Ce cadeau que tu m'as donné un jour, Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur Jésus. Je te dis merci, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Doris, d'être venue partager ton histoire et ton témoignage, je crois, qui va pouvoir encourager, redonner de l'espoir. Alors, je ne soyez peut-être pas aussi directif que Doris. Si vous n'avez pas autant d'assurance.
Non, je
ne
le conseille pas.
Je ne le conseille pas. Et félicitations pour ta belle famille, tes deux beaux enfants. Et puis, c'est toujours encourageant de voir ce que Dieu fait dans une vie. Et on est tous de la même chair. Et c'est la prière que tu as faite. Et, c'est le même Dieu qui répond à la prière d'une femme à l'autre bout de la francophonie. Et envoyez-nous vos témoignages, laissez-nous vos témoignages, ça va nous bénir. On a eu plusieurs émissions il y a eu plusieurs femmes qui ont eu des enfants de façon surnaturelle, des bonnes nouvelles de grossesse, et
bah on se réjouit. Oui,
et il faudrait que si c'est des filles, vous pouvez les appeler soit là, Stéphanie, ou Annabelle,
ou Doris. Voilà, au choix, au choix, ou le nom.
Vous avez des choix.
Le nom composé le plus long du monde. Bah, merci Doris d'avoir été avec nous. Merci les filles. Puis on se dit à bientôt à table avec Annabelle.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.